Bonjour chers auditeurs, j'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui 1er avril et bien non, cette émission n'est pas un poisson puisqu'elle a bel et bien lieu et que nous sommes là dans le studio avec un invité. Mon invité c'est monsieur Paul Rhin qui est vice-président des Republicans Abroad
Overseas in France.
Overseas France, voilà. Nous aurons par téléphone trois autres invités un peu plus tard et nous allons essayer en une heure et demie seulement, même pas une heure et demie, 1h25, nous allons essayer de faire un petit tour de la situation aux États-Unis à 7 mois des élections de mi-mandat. Alors, comme vous le savez, chers auditeurs, l'agenda a été assez bousculé par les derniers événements au Moyen-Orient et je suppose que ce qui vous intéresse le plus, c'est d'avoir des nouvelles justement de ce conflit armé, guerre si vous voulez, enfin guerre Trump, rend aux Iraniens ce qu'ils nous ont fait. Ils ont quand même tué des milliers d'Américains et aussi des milliers d'Européens, n'oubliez pas. Et donc, ce n'est pas une guerre gratuite décidée comme ça sur un caprice, c'est quelque chose qui était envisagé depuis très longtemps. Trump, pour sa part, ça fait 40 ans qu'il en parle. Moi, j'en avais parlé en 2003 aussi, parce que l'invasion d'Irak, en fait, aurait dû se poursuivre par l'invasion de l'Iran. C'était en question et malheureusement les choses ont tourné autrement. Donc c'était quelque chose de mûrement réfléchi. Alors, nous allons commencer par un très bref quand même survol de ce qui s'est passé en 2025. Vous êtes d'accord, Paul Rhin, Trump a quand même déwokisé l'Amérique.
Oui, oui, beaucoup, oui.
Et il y a une influence sensible sur l'Europe, sur deux points. Un petit peu moins d'immigration et un petit peu moins de folie écologiste de la part de l'Union européenne, puisqu'il y a eu des décisions prises récemment. Enfin, en tout cas, ce sont des bonnes intentions. On ne sait pas si elles sont suivies des faits. Trump a également signé plusieurs ordres exécutifs, c'est-à-dire des décrets présidentiels, pour arrêter la mutilation des enfants. Qui était voulu par le lobby trans. Et Trump a véritablement fait beaucoup, et pour l'Amérique, pour lui redonner, la remettre dans le droit chemin et revenir au bon sens naturel. Et également, même si les Européens ne s'en rendent pas compte, fait beaucoup aussi pour le reste des pays occidentaux. Alors, maintenant, tout n'a pas été fait, loin de là. Il y a des mécontents, on en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que vous retenez de meilleur dans l'année 2025 de Trump?
Bon, bonjour tout le monde, bonjour Evelyne. La meilleure chose qu'il a fait, c'était la première chose qu'il a fait, il a fermé les frontières.
Oui.
Ça, c'était la chose
fantastique.
Énorme, fantastique. Mmh. Il ne peut rien faire d'autre à part de ça et a déjà un grand réussi.
Oui.
C'était une grande promesse. Fait promesse tenue, Joe Biden et Kamala Harris ont laissé les portes ouvertes. Il y avait entre 15 et 20 millions des immigrés illégaux qu'ils ont
sans
laissé.
Sans aucun contrôle.
Sans aucun contrôle. Ni COVID, ni background checks ou les histoires.
Les télévisions néfastes que nous voyons, nous, en Europe, ne parlent jamais de ça.
Pas jamais.
Bien sûr, pas.
Il n'y a rien fait, Trump. Mais ça, c'était l'origine, cette immigration énorme, c'était l'origine de tous les problèmes aux États-Unis. Les crimes.
Le crime.
Et les crimes, maintenant, en 2025, c'était la plus grande réduction depuis toujours, je crois. Plus de 20% des crimes. Il y a toujours beaucoup de crimes, mais les drogues, fentanyl et tout ça, et les coûts, parce que Biden a mis dans les housing, coup bas avec une carte de débit, et tout ça, c'était horrible. Donc, tout ça, c'est en train de changer. Et une autre promesse, c'était d'exposer des gens illégaux. Donc, ça, c'est...
Les déportations.
Déportations,
d'accord. Ça, je trouve ça, la rémigration, qui reste un fantasme en Europe, mais qui est une réalité aux États-Unis.
D'accord. C'est, il a déporté, il a crié, il a mis beaucoup d'argent sur le groupe ICE.
Combien de personnes ont été déportées? Des illégaux, violents, criminels.
Il y a deux chiffres. Il y a deux chiffres. Les gens arrêtés par ICE et déportés.
Alors ICE, il faut le dire pour nos auditeurs, c'est la police des frontières.
Contrôle immigration. Pas les frontières. Il y a un autre groupe. Oui. Le Customs and Border Control.
Voilà. Oui.
Deux similaires. Tous les deux, les démocrates détestent.
Bien sûr.
Okay. Parce que c'est l'origine de tous les problèmes aux États-Unis. Les démocrates préfèrent les immigrés illégaux, mieux que les citoyens.
Et pourquoi cela? Parce que les télévisions françaises ne disent jamais non plus.
Ils disent jamais.
C'est parce qu'ils les ont fait rentrer pour eux des électeurs.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Voilà.
Et ils n'étaient pas toujours comme ça. Il y a 10 ans, ils étaient contre les immigrés illégaux. Obama a exposé beaucoup.
Obama n'était pas
pour répondre à votre question, il y a deux chiffres. Le total, c'est vers 3 millions. 1 million exposé par ICE et les agents fédéraux.
Alors, exposé, ça veut dire révélé. En français, je suis obligée de...
Control immigration.
Voilà, oui. Exposé, c'est-à-dire que les gens ne voyaient pas vraiment, mais ça a été révélé au public. Les fraudes.
Ah, la fraude, c'est une autre chose, oui.
Oui, mais ça va aussi avec.
Oui, bah, bien sûr. Il y a des gens, même légaux, mais des immigrés illégaux qui ont commis
des
milliards de fraudes dans l'État de Minnesota avec Waltz, qui était presque le vice-président des États-Unis. Mais pour répondre à votre question, 3 millions, 1 million exposés par ICE, 2 millions par eux-mêmes. Les gens parlent jamais de ça. Trump a payé les gens. Il a acheté le ticket avion pour retourner à leur propre pays. Ça, c'était 2 millions, plus que les gens exposés par ICE.
Est-ce qu'on peut, pour terminer sur le sujet de la réémigration, dire combien environ de milliers ou millions d'illégaux, notamment d'illégaux criminels dangereux, ont été rapatriés dans leur pays?
Juste 3 millions,
c'est
je viens de dire.
C'est tout que sur les presque 20,
1 million arrêtés, 2 millions qu'ils ont self-déportés avec d'agents de
Alors,
Trump.
Alors, self-déportés, c'est-à-dire
imagine 1 million et les démocrates sont en train d'exploser dans la rue et les démocrates, Joe Biden et Harris, a laissé entre 15 et 20 millions entrer, le plus grand nombre dans l'histoire des États-Unis.
Tout à fait. Alors, comme vous venez de dire, self-deported, c'est en fait qu'ils ont choisi eux-mêmes, enfin les plus raisonnables, de rentrer chez eux, parce qu'ils ont compris que ça n'allait pas.
Ouais.
Ça n'allait pas. Alors, donc, c'était, il y avait aussi, alors, on ne parle plus, et terminons avec ça, on ne parle plus de alligator Alcatraz.
C'était une prison
en Floride. Il y a un petit juge qui a décidé de la...
Trump a menacé de mettre les alligators autour de la prison. Donc, les gens commencent de l'appeler...
Oui, mais on n'en parle plus.
Alligator Alcatraz, c'est une prison.
Malheureusement, on n'en parle plus.
Pour les criminels immigrés illégaux.
Oui, mais on n'en parle plus.
Ça existe toujours.
Il existe toujours.
Well, maintenant, les démocrates explosent, ils changent un sujet à l'autre tout le temps. Maintenant, c'est ICE, TSA, tout ça.
Alors, Paul Rhin, comme il faut sans cesse regarder la pendule parce qu'on a tellement à dire.
Ah, oui.
Et je demanderai aux auditeurs de faire des questions courtes et pointues. Et nous y répondrons après avoir une ou trois invités, ou vers 13h. Voilà. Donc, courtes et pointues que nous accumulons. Et là, vers midi 20, nous allons appeler Marc Amblard pour nous parler du SAVE Act, c'est-à-dire du projet de loi de Trump et des Républicains pour que les élections soient comme dans tous les pays civilisés, avec une pièce d'identité et le jour, un jour précis et pas étalé sur 2 ou 3 semaines. Alors, Paul Rhin, on va un petit peu parler de Epic Fury. C'est-à-dire le nom de l'attaque qui a commencé le 28 février dernier, qui entre là dans sa cinquième semaine. Trump a toujours parlé de quelques semaines, ce qui nous conduit jusqu'à Pâques jusqu'à mon anniversaire,
2 semaines
plus tard. Je pense que pour mon anniversaire, il aura terminé. Et donc, il ne faut pas... Chers auditeurs, si j'ai demandé à Paul Rhin... qui, lui, est en liaison constante avec des conservateurs aux États-Unis, Si j'ai demandé de venir, c'est parce que lui sait mieux que les gens que vous voyez sur les plateaux de télévision qui ouais. disent des âneries plus grosses qu'eux tous les soirs. Hier soir, j'ai essayé de regarder, mais je ne tiens pas plus de 2 minutes. Il y avait un petit jeune homme qui parlait du fiasco de Trump en Iran et du déclassement de l'Amérique, blablabla. Enfin bref, moi, il savait, ouais. lui, voilà. Ouais. Alors, nous allons un petit peu parler de Epic Fury. Vous avez... Moi, j'ai lu... des documents intéressants, alors de notre ami Guy Millière, que je n'appelle pas parce qu'il est à 8h d'ici et ça fait le milieu de la nuit, mais il fait des papiers très intéressants, alors lui il est en général toujours optimiste. Ouais. J'ai également, je me suis inspirée aussi de un chercheur que vous connaissez bien, Paul Rhin, qui s'appelle Ken Timmermans,
ouais.
Qui lui aussi met les choses au point et qui dit que tout ce que vous entendez sur le manque de préparation, manque de stratégie de Trump, c'est complètement bidon. Ce sont des choses qui ont été minutieusement préparées, sous-pesées, pensées depuis des mois, voire des années. Alors, enfin, dernière personne que j'ai consultée, c'est Victor Davis Hanson,
ah ouais.
Qui est un intellectuel de la côte ouest, et qui dit qu'il est optimiste aussi, mais lui dit néanmoins qu'il faut être très prudent parce qu'il reste des poches de résistance et il reste quand même des caches. Vous savez que ces pays sont... comme du gruyère en dessous. Et donc, il reste des caches de missiles et de matière d'uranium à 60%, enrichi à 60%, c'est-à-dire uranium qui, si on les laissait tranquilles, 2 semaines plus tard, pourrait être enrichi à 90%, c'est-à-dire faire des bombes. Et Trump, Rubio et Excess, le ministre de la guerre, et Rubio, le secrétaire d'État, ont bien dit, nous faisons le gros travail... nous ne sommes pas là pour un changement de régime, nous faisons le gros travail, nous démilitarisons en fait le régime et oui, nous, le faisons, nous le faisons tomber si possible. Alors, oui. Victor Davis Hanson conclut, il ne faut pas que Trump se retire de là-bas avant que ce soit fait, il faut effectivement une reddition sans condition. Ce régime empoisonne tout le monde, toute la planète, pas que les Américains, nous aussi, même si les Européens ne veulent pas s'en rendre compte. Et Victor Davis Hanson conseille donc un peu de patience, et moi je dis, si les journalistes avaient été pendant les deux guerres mondiales comme ils sont en ce moment là, à l'affût, eh bien on n'aurait pas pu gagner. Voilà, il faut aussi laisser aux militaires, il faut faire confiance aux militaires. Paul Rhin, c'est à vous jusqu'à 13h20, 13h19, midi 19.
Ah oui, c'est très, très important de lire, écouter les vrais intellectuels américains. Comme vous avez bien dit, Victor Davis Hanson et Ken Timmerman, qui est une amie de moi, et bien sûr Guy Millière, qui comprend tout. Si Guy écoute ça, il habite aux États-Unis et vraiment, vraiment, il comprend tout et est très conservateur. Et tout le monde dit la même chose. Reste optimiste. Or, il faut faire confiance, il voit les médias français. Ken Timmerman, il parle couramment français. Il habite en France la moitié de l'année. Il voit les médias français et il dit qu'il fait que des mensonges, que des pessimistes, que les doom and gloom, on dit en anglais. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Pourquoi il fait ça? Parce que peut-être il déteste Trump. C'est un échec.
Les Européens détestent leur propre culpabilité. Ils en veulent toujours à l'Amérique de les avoir délivrés par deux fois. Et en même temps, ils sont militairement minables.
Et oui, ils discutent les tactiques militairement toute la soirée.
Ils détestent
les gens avec une opinion différente. Si les républicains, les conservateurs français qui essaient de défendre l'importance, la raison pour arrêter l'Iran, ils sont complètement censurés. C'est insupportable. Mais la chose importante est qu'il y avait des raisons. Et il a toujours dit que, except that Trump n'a jamais donné les raisons. C'est pas clair, il comprend rien, il n'a pas un plan, ils sont pas bien coordonnés avec Israël. Rien est vrai. Et c'est pas mon opinion, c'est les opinions des autres.
Les critiques vont même jusqu'à dire que c'est Israël, le petit Israël, qui a entraîné Trump là-dedans.
Ah oui, oui, oui.
Et il parle oui, je ne sais pas si vous avez entendu
Trump.
Ça, Paul.
Oui, bien
j'ai
sûr,
entendu
ouais.
parler de l'empire israélo-américain. Non, mais
oui,
fou.
Oui, oui, oui. Et malheureusement, il y a des conservateurs aux États-Unis qui disent le même, qui répètent
les mensonges. Lesquels?
Well, ils ne sont pas vraiment ex-conservateurs.
Ils ne sont pas des vrais conservateurs.
Tucker Carlson.
Ah non, bah non, on en parlera tout à l'heure. Ça, c'est les moi, je les appelle les grincheux. Les grincheux. On parlera des grincheux tout à l'heure.
Mais avec le groupe républicain, MAGA, il toujours soutient Donald Trump.
Alors,
il soutient la raison pour cette guerre, d'éliminer cette menace terroriste, islamique, iranienne, qui a la distance de missiles à 4000 km maintenant, jusqu'à Paris.
Oui,
nucléaire.
Ça, oui.
60% enrichissement, deux semaines pour d'avoir la nucléaire bombe.
J'ai deux questions pour vous, deux questions rapides avec des réponses rapides.
Ouais.
Quand Trump dit qu'il est en train de négocier ou de parler, avec qui est-ce qu'il parle? Qui c'est,
oui,
qui c'est
ça,
en ce moment?
Il ne dit pas, il ne dit pas.
Ah, parce que
il dit pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'il dit pas. Et Hexas fait la même chose. Et les journalistes, ils posent des questions. Mais et parce qu'il dit pas, les gens anti-Trump disent que c'est pas vrai, il parle avec personne. Donc c'est une question de croyance ou belief. On croit en Trump. On croit.
Il y a quelques gens importants qui n'ont pas été tués. Quelques-uns. C'est peut-être avec ceci qu'il parle.
Il a tué presque tous les dirigeants.
Oui, les ministres.
D'Iran,
les ministres.
Tous les ministres, l'Ayatollah.
Ouais.
Les gens comme Ken Timmerman disent qu'il y a un grand problème en l'intérieur en Iran.
Il faudrait que Trump arrive au niveau où ce ne soit plus des dirigeants néfastes, mais des dirigeants décidé cette fois-ci à ne plus être les ennemis de l'Occident.
Ils font les négociations, ils mettent les timelines. Maintenant, c'est le 6 avril qui arrive,
oui,
le jour après Pâques.
Ouais, le lundi de Pâques.
Oui, lundi de Pâques.
Oui, mais comme il y a eu une date de donnée, j'en doute. En général, Trump préfère la surprise.
Normalement, il bouge, il est flexible, il est... c'est quoi le mot? Imprévisible. Mais on croit en Trump, on croit qu'il est, il essaie de donner une autre chance en Iran pour arrêter les choses, ouvrir le détroit d'Hormuz. Mais
alors,
il est sérieux.
Alors,
il va frapper encore.
Justement.
Il va détruire cette groupe.
Aux dernières nouvelles venant des États-Unis, pas des télévisions françaises, aux dernières nouvelles, Trump laisserait tomber le détroit d'Hormuz parce que finalement, le détroit d'Hormuz, c'est les Européens qui en ont besoin. Netanyahou a dit que le pétrole d'Arabie Saoudite et d'autres pays pouvait très bien être acheminé par la terre et au besoin par la mer Rouge. Et donc, les Saoudiens ont déjà commencé à acheminer. Voilà. Et le détroit d'Hormuz, en fait, il est surtout important pour les Européens. L'Amérique a son
Trump
énergie.
A dit, vous pouvez toujours acheter des États-Unis. Hein.
Exactement. Et donc,
grâce à lui, on a les développements de gaz naturel, pétrole, beaucoup aux États-Unis.
Je pense que s'ils font une dernière opération militaire, ça sera plutôt sur l'île de Karg, qui est vraiment l'essieu.
Ça, c'est la grande question.
Voilà, c'est la grande question.
Pour ça.
Et alors, je voudrais quand même dire une chose quand même. Alors ça, c'est pour nos chers amis francophones qui disent tout le temps que les Américains, le monde anglo-saxon détruit la langue française. Moi, j'ai entendu sur un de ces généraux de plateau l'autre soir qui disait « Ah, les Américains vont bitcher à tel ou tel endroit ». Je me disais « Mais de quoi est-ce qu'il parle, cet individu ?» Et bitcher, il a dû le répéter 10 fois. Il voulait dire faire comme les GIs en 1944 et
débarquer, tout simplement.
Alors, au lieu d'employer le mot débarquer, qui est parfaitement fin, lui, il disait bitcher. Qu'est-ce que ça faisait bien? J'étais ravie, j'ai appris récemment hier matin, que le Conseil permanent de la francophonie a fait connaître sa désapprobation et demande aux autorités, comment ça s'appelle, les autorités des radios et télévisions en France, Eric?
Le
Haut Conseil
de
l'audiovisuel.
L'audiovisuel, oui.
Voilà.
Oui,
ils ont demandé, le Conseil permanent, ils ont demandé que des mots pareils, qui venaient en fait de plage, beach, et non pas bitch, qui veut dire garce. Mais en plus, il prononçait mal. Et donc le Haut Conseil a demandé, de la francophonie, a demandé que ce genre de vocabulaire soit surveillé et interdit sur les télévisions françaises.
Ah, ok.
Alors, affaire à suivre. Il est 21, nous sommes en retard, nous allons maintenant venir à la guerre, à la guerre culturelle qui a lieu aux États-Unis et appeler Marc Amblard qui va nous parler de ce projet de loi de Trump, de ce projet de loi de Trump qui s'appelle le Save Act. Mm-hmm. Enfin, pour l'instant, c'est le Save Bill puisque c'est pas encore devenu
Trump,
loi.
Le Save America Act.
Oui, Save America Act, exactement. Donc, c'est de faire des élections américaines, ben, comme dans tout pays civilisé, des vraies élections avec une pièce d'identité à présenter et des élections le jour des élections et pas deux mois avant et deux semaines après.
Une preuve de citoyen.
Alors, est-ce que nous avons Marc Amblard au téléphone? Il faut mettre les casques.
Oui, bonjour Evelyne.
Bonjour Marc, vous êtes juriste, on vous connaît bien à Radio Courtoisie. Comme vous avez très peu de temps, que vous n'avez que 7 minutes, je vous laisse parler du Save Act. Une chose quand même, il faut bien comprendre que pourquoi est-ce que ce projet de loi précis demande 60% des sénateurs au lieu d'un simple vote majoritaire à 50 voix, 51 voix ou 50 qui pourraient être arrondis à 51 avec le vice-président. Pourquoi est-ce qu'il faut une majorité supérieure? Et deuxièmement, il faut rappeler que les démocrates, s'ils avaient gagné les élections en 2024, eh bien eux, ça faisait partie de leur projet de supprimer le filibuster en arrivant. Alors, Marc, et puis il y a Trump hier soir qui a signé un ordre exécutif, c'est-à-dire un décret présidentiel, sur la probité des élections aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? Où est-ce que nous en sommes? Et dernière chose, il y a le chef de la majorité au Sénat, je l'aimais bien autrefois, mais beaucoup moins maintenant, qui traîne des pieds. Et c'est vrai qu'il n'a pas les voix, il n'a pas 60 voix. Mais en même temps, pourquoi cette résistance à supprimer le filibuster, qui de toute façon sera supprimé par les démocrates?
Bien. Alors, je précise que je ne suis pas juriste, hein, je suis avocat.
Avocat, excusez-moi.
Au barreau de Paris et au barreau de Floride. Voilà. Donc, je vais vous donner un peu mon sentiment sur ce qui est en train de se passer. Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, donc qui comprend 50 États, l'obligation de prouver sa citoyenneté et son identité n'est pas requise dans tous les États lors des scrutins. Ça paraît surprenant, notamment pour les auditeurs français. Il faut savoir qu'il y a à peu près un tiers qui impose donc cette preuve, un autre tiers qui ne l'impose pas, mais qui impose plutôt une justification d'identité, même sans photo. Donc là, c'est une présentation un petit peu molle. Et un tiers qui n'impose aucune obligation de prouver sa citoyenneté et son identité. Donc, c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. C'est d'autant plus surprenant qu'aux États-Unis, par exemple, pour assister à un match de baseball, pour acheter de l'alcool, pour avoir une voiture, dans une grande partie des actes, pas quotidiens, mais en tout cas des actes courants de la vie américaine, il faut présenter une pièce d'identité, mais pas pour voter. Pour la petite histoire, par exemple à New York, le nouveau maire a recruté des personnes pour déneiger, et il fallait présenter une pièce d'identité. Et par contre, pour New York, on peut voter sans pièce d'identité. Ça veut dire que quelqu'un, finalement, peut voter plusieurs fois, sous des noms différents, et peut voter dans plusieurs États, ce qui est théoriquement interdit. Donc, Trump est très conscient de l'enjeu, puisqu'il en a fait les frais en 2020. Je pense que si effectivement il y avait un encadrement beaucoup plus strict du scrutin en 2020, Trump aurait été réélu. Ça n'a pas été le cas, et il sait pertinemment que les mid-termes, en tout cas, s'il veut conserver sa majorité, les mid-termes vont devoir, enfin les élections mi-mandat, pardon, les élections mi-mandat doivent être surveillées et faire en sorte effectivement que seul un citoyen puisse voter et une seule fois. Bon. Voilà. Donc, d'où la loi Save, qui a pour objet donc d'imposer aux États qu'ils requièrent la preuve d'une citoyenneté, de la citoyenneté américaine et de l'identité pour pouvoir voter lors d'un scrutin, je dis bien, fédéral. Bien. Alors, cette loi a été approuvée par une majorité de représentants, donc de la basse chambre, mais pas par le Sénat, puisque comme vous venez de le souligner, il faut 60 voix sur 100. Alors pourquoi ? Eh bien pour éviter finalement qu'une minorité se voit imposer les diktats de la majorité. Donc la Constitution a été prévue comme ça, c'est la règle du filibuster. Et on n'a pas les 60 voix.
Excusez-moi Marc, ce n'est pas dans la Constitution. Le filibuster ne date pas de la Constitution. C'est une coutume qui s'est créée, mais ce n'est pas constitutionnel.
Alors, c'est vrai, il demeure, vous avez parfaitement raison de le souligner, il demeure que les sénateurs on parle de constitutionnalistes. Alors certes, ça n'est pas mentionné, mais si vous voulez, cette notion de vouloir protéger la minorité, de l'emprise de la majorité, avait, si vous voulez, préoccupé les pères fondateurs et les sénateurs constitutionnalistes s'y opposent. Et là, j'essaie de répondre à votre question, parce que ce ne sont pas forcément des anti-Trumpistes, pas du tout. Ce sont des gens qui redoutent que finalement, le renversement du filibuster se retourne contre eux s'ils perdent la majorité le 2 novembre prochain. Parce que si effectivement on renverse cette règle qui est quand même bien ancrée, alors effectivement elle peut se retourner contre nous si nous perdons la majorité, donc le 2 novembre prochain.
Oui, mais elle peut aussi se retourner avant le 2 novembre prochain. Justement, si c'est pas passé le 2 novembre prochain, c'est grave. La fraude peut continuer et faire revenir les démocrates. Et là, Trump, après, se trouve lame duck, c'est-à-dire canard boiteux, pendant les 2 années qui restent.
Ah, mais ça, c'est certain. C'est un risque très important. Alors, comme Trump souhaiterait que ça avance plus vite, et vous l'avez souligné, vous avez bien fait, parce que c'est tout frais, ça date d'hier, Trump a fait voter un décret, donc visant à garantir, si vous voulez, que les votes par correspondance, parce que là aussi, il faut en parler, on n'est pas très habitué en France au vote par correspondance, parce que généralement, c'est limité aux gens qui sont malades, aux gens qui, professionnellement, ne peuvent pas se déplacer, ou qui, comme les militaires, se trouvent, on va dire, éloignés de leur bureau de vote. Il faut, alors qu'aux États-Unis, il y a eu une dérive, notamment pendant le Covid, où les votes par correspondance ont représenté presque 70% des voix exprimées. Donc c'est énorme. Il y a eu une exploitation, alors on peut le dire, on sort le mot, frauduleuse, des votes par correspondance qui a complètement modifié et perverti, si vous voulez, la voix, l'expression électorale du peuple américain. Donc ça, c'est très important. Et le décret dont on parle vise justement à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de surveillance de l'usage qu'on peut faire des votes par correspondance et faire en sorte que ces bulletins soient envoyés à des électeurs qui sont vraiment citoyens et américains et qui ne pourront voter qu'une seule fois avec une vérification de la signature. Ce qui n'est pas le cas dans une grande partie des États. Alors je dois quand même souligner que ça n'est qu'un décret, c'est-à-dire que c'est l'émanation, si vous voulez, du pouvoir exécutif, signé par Trump. Il demeure que ça reste faible sur le plan légal, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, les États jouissent d'une indépendance qui est garantie par le 10e amendement à la Constitution, et que chaque État est libre d'organiser les élections comme bon lui semble. Donc, inévitablement, des États s'opposeront à ce décret et celui-ci sera contesté. Mais l'idée de Trump, au-delà de ce décret, c'est de bien montrer effectivement quels sont les États, les comtés qui s'opposent à cette vérification. C'est un des dispositifs qui est destiné à peser sur, si vous voulez, la population et en quelque sorte l'opinion générale pour pousser finalement les gouverneurs de chaque État à adopter des règles beaucoup plus strictes lors des élections fédérales.
Et très bien.
Je voudrais juste faire remarquer quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que si on prend par exemple les dernières élections donc de novembre 2024, eh bien, retenez bien ces deux chiffres très intéressants. Madame Harris, Kamala Harris, a gagné 13 des 14 États qui n'imposent pas une identification.
Bien
13
sûr.
Sur 14. Par contre, elle n'en a gagné que 2 dans les 23 États qui imposent une identification de l'électeur. Vous voyez ? Donc ces deux chiffres sont sont très intéressants. Parce que, et ils sont parlants, et on sait pourquoi, effectivement, les démocrates, pas les démocrates, mais attention, les dirigeants démocrates s'opposent à l'identification de l'électeur.
L'extrême gauche, oui.
Bien sûr. Alors que plus de 70% des électeurs démocrates souhaitent une identification des électeurs. Plus de 80% des républicains souhaitent une identification des électeurs. Alors pourquoi ils ne les réclament pas ? Bien, on le sait très bien, parce qu'effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on fait rentrer des gens qui ne sont pas citoyens et on achète leur voix. Il y a des bus entiers qui baladent des électeurs qui sont totalement illégitimes pour aller déposer des bulletins là où ils ne devraient pas être déposés. Donc, et c'est un immense scandale. Voilà.
Tout à fait. Merci Marc. Nous sommes obligés de vous quitter. La pendule gouverne. Merci beaucoup pour votre éclairage. À bientôt.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir Marc. Alors, la guerre culturelle aux États-Unis fait rage et on le voit avec, alors jamais là encore les télévisions françaises n'en parlent, il y a quelque chose qui occupe beaucoup les Américains depuis un mois maintenant, même plus, c'est la réaction à l'organisme de l'immigration, ICE, dont vous parliez tout à l'heure, Paul Ryan, et il y a les démocrates, qu'on ne devait pas appeler les démocrates, on devrait les appeler l'extrême-gauche marxiste, qui a noyauté le parti démocrate et qui véritablement gouverne ce parti. Eh bien, il y a, et tous les gens qui ont voyagé récemment aux États-Unis ont dû être pris dans les queues de 3-4 heures aux aéroports, étant donné que les agences, ils ont retiré les fonds aux agences. Alors là, c'est vraiment gratuit, c'est typique de la part des faux démocrates, vrais marxistes, embêtés à tout prix pour que ça provoque des émeutes, pour que ça nuise à Trump, n'importe quoi pour nuire à Trump. Et donc, ils ont décidé de retirer les fonds à une agence qui est importante, qui est l'Agence de la sécurité des transports.
Homeland Security, la sécurité de tout le pays.
Oui, mais à l'intérieur, il y a un autre qui s'appelle Transportation Security Administration. Et voilà, ce sont ceux-là
et TSA,
qui sont visés particulièrement.
Pour les voyageurs, oui. Mm-hmm. Mais y compris le FEMA, qui est pour les désastres naturels.
Oui.
Les hurricanes, les ouragans, les tornados, et aussi les cyberattaques. Donc, on est dans une guerre.
On est en pleine guerre.
On est en pleine guerre. Et le Department of Security de Homeland
c'était commencé
n'est pas
avant.
Financé par les démocrates. On a besoin encore 60 voix dans le Sénat et les démocrates disent non.
Alors, Trump a dit qu'il allait prendre dans l'argent mis de côté grâce au BBB, son Big Beautiful Bill, vous rappelez, qui est passé en juin 2025, juin ou juillet, je sais plus. Et donc là, il avait réussi un coup de maître et donc il y a de l'argent de côté. Donc Trump a dit on va débloquer cet argent et on va payer les employés. Ça fait plus d'un mois et demi, c'est plus vieux que la guerre en Iran. Hein. C'était commencé avant.
Oui, le Big Beautiful Bill.
Je parle de cette paralysie de la sécurité des transports, qui fait qu'il y a des queues inimaginables.
Avant la guerre, oui. Avant
au moins 15 jours avant, ils avaient commencé.
C'était depuis, il y avait deux citoyens tués par le département d'immigration en Minneapolis.
Je crois qu'il faudrait que vous disiez là ce qui s'est passé.
Rapidement,
en janvier.
Ouais, il y a tellement de choses à dire.
Je le rappelle pour vous en vitesse.
Oui, si vous voulez.
Alors, début janvier, moi j'ai vu le journaliste Gilles Boulot, que je croyais être mieux que les autres, qui dit un soir, voilà, Trump, tout lui est permis, on tire maintenant à vue sur les manifestants. Alors, si vous avez entendu une énormité pareille, chers auditeurs, n'en croyez pas un mot, il y a contre cette police, alors vous dites police de l'immigration, qui est eh bien cette police de l'immigration, qui est dirigée par Tom Homan, qui est un homme intègre et efficace, eh bien, ils ont voulu intervenir dans ces États du Nord qui sont très, très, très à gauche et qui sont avec une forte population somalienne. au Minnesota. Et au Minnesota, ça s'est mal passé, alors que dans tous les autres États, ça se passe très très bien.
Très bien.
Très très bien, les déportations. Il s'agit simplement d'aller, de demander aux autorités locales de bien vouloir remettre à M. Homan et à son agence de remettre les criminels qui sont dans les criminels illégaux qui sont dans les prisons. Eh bien non, ils préfèrent les relâcher, les démocrates extrémistes de gauche préfèrent les relâcher plutôt que de les confier à la police des frontières. C'est quand même inimaginable.
Ah
et tout
oui,
est parti
ça,
de là.
Vieux,
tout est...
ça,
et alors, il y a eu deux morts, effectivement, mais ce n'est pas que Trump disait tirer à vue. Il y a eu deux morts qui l'ont bien cherché leur mort. Une femme, Renée Good, je crois, qui, son épouse lui disait, voilà, c'est bon, maintenant tu peux y aller. Et elle a foncé sur un policier. Et le policier, se voyant attaqué, a tiré. Donc, légitime défense. Et un autre, c'était un infirmier. Un infirmier, lui, il était armé.
Amen.
Donc, les manifestants ne sont pas censés être armés. Une manifestation paisible, c'est avec des gens qui ne sont pas armés. Et donc, lui, c'est pareil, il y a eu, c'est une bavure, mais le policier, s'il a tiré, c'est pareil, s'est trouvé en état de légitime défense. Donc, c'est parti de là. Et ça, c'est surtout dans les États du Nord. Et alors, donc...
Et la raison qu'ils ont fait ça, parce que c'était à cause des dirigeants de le Parti démocrate, les sénateurs.
Voilà.
OK. Ça vient de le top de le parti. Ils
dont
ont
le fameux Waltz.
Ils disaient aux gens d'aller et essayer d'arrêter les agents armés qui essayent de faire le boulot, qui était de chercher les criminels et les immigrés illégaux criminels. Donc, ils ont mis leurs propres gens, propres Américains, dans une position dangereuse, ok. Donc, et parce que il ne veut pas exposer des immigrés illégaux, et ça crée des problèmes qu'ils commencent à dire que cette contrôle d'immigration sont les fascistes, ils sont les terroristes, et ils ont décidé entre eux de pas financer. Cette groupe qui est un département d'un autre plus grand groupe, le total département de sécurité de le pays, d'accord?
En fait, ils agissent contre la loi.
Y compris les agents aux aéroports.
Ils agissent contre la loi, vous êtes bien d'accord? Ce sont des lawless.
Ils sont lawless, les dirigeants de le Parti démocrate sont lawless, mais ils ont le média américain dans leur poche, donc ils mettent le blâme sur les républicains tout le temps. Et les médias répètent les mensonges, c'est le vote des républicains. Donc, on voit directement les problèmes dans les aéroports, parce que les agents de sécurité de transport sont pas payés, et va créer des problèmes, et on est toujours dans cet état-là.
Et ça peut aussi créer des problèmes de sécurité, parce que les personnes qui sont dans les lignes d'attente pendant 3 heures, 4 heures, eh bien, ça fait des cibles parfaites aussi pour les terroristes. Et non, ça, c'est un danger qu'ils prennent en plus.
Oui, et Trump a trouvé une solution pour payer les agents de sécurité dans les aéroports. Il a envoyé ICE, le groupe que les démocrates détestent. Il essaie de détruire son financement et tout ça. Trump a envoyé eux.
Parce qu'ils sont super efficaces.
Et qu'est-ce qui se passait? Les files d'attente n'existent plus. mais c'est continu, c'est horrible. Et en fait, le parti, les sénateurs Rhino, les républicains sénateurs...
Les républicains de nom seulement.
Viennent d'être d'accord avec les démocrates.
C'est une honte. Alors,
OK, honte. Mais la chambre, c'est compliqué parce que la chambre a refusé. On est toujours dans le même état. Mais les républicains, les sénateurs républicains, quelle honte.
En fait, c'est une poignée de sénateurs républicains qui sont des républicains de nom seulement. Ils sont toujours les mêmes.
Et oui, c'est ça.
Et Toon, malgré ça, leur dit c'est bon, on part 2 semaines en vacances de Pâques.
Oui, oui.
C'est une honte.
Ils ont signé, et ce n'est même pas un vote écrit, c'était un vote de voix. Il dit yay et nay. Ah, the yays have it. Vous comprenez?
Alors,
et après, ils sont partis. Donc, quelle honte. Mais la chambre est bien.
La chambre est bien. Et Mike Johnson est fantastique. Le speaker.
Donc, c'est assez détaillé pour nos écoutes.
C'est difficile
Français,
à comprendre. Oui.
C'est les choses que Trump essaie de gérer. En même temps, il gère une grande guerre. Les démocrates créent le chaos. Ça, c'est la priorité, créer le chaos aux États-Unis et protège pas les citoyens.
Chers amis auditeurs, je vous signale qu'un poisson s'est glissé, au fait, depuis le début de l'émission. On verra bien si vous l'avez détecté. Un poisson d'avril.
Un poisson d'avril.
Vous n'avez pas, messieurs, vous ne l'avez pas. Oh, bah, alors, c'est qu'il est très réussi, mon poisson.
Bon. Lunettes,
alors, nous allons maintenant, peut-être que lui, il l'aura détecté. Nous allons appeler notre ami Eric Svan, qui est dans le Colorado, à 8 heures de différence. Ça fait que le pauvre, on le réveille en plein milieu de la nuit, vers 4 heures du matin. Et donc, lui va nous parler de quelque chose de plus gai, le CPAC, c'est-à-dire la conférence, comment on dit ça en français, c'est la conférence annuelle des conservateurs américains.
Political action.
Voilà. Nous recevons des messages, nous les groupons tous, il y en a qui sont beaucoup trop longs, il y en a qui sont des déclarations de haine pour l'Amérique et pour Trump, bon, on fera court. Nous les verrons après Eric Svan. Voilà. Okay. Est-ce que nous avons Eric en ligne? Non, pas encore. Alors, comment est-ce que ça peut se passer, là, Paul Rhin? Mike Johnson a parlé, je crois, de session pro forma. C'est-à-dire qu'on peut, on peut tenir une séance du Congrès, même si tout le monde n'est pas là. Et ce sont ceux qui sont présents.
Ça
oui, mais
passé. Ça s'est lundi.
Et ça s'est passé ou pas?
Oui, il y avait cette chose conforma.
C'est-à-dire que ça passerait outre les rhinos.
Les Republican Senators sont arrivés, ils ont refusé l'offre de Mike Johnson pour financer tous les départements.
Donc on est dans l'impasse.
Y compris l'ICE. Les Republicans ont refusé. Les Republican Senators ont refusé.
Donc on est dans l'impasse.
On est dans l'impasse.
Pendant deux semaines.
Mais les gens de TSA sont payés grâce à Trump.
C'est toujours ça. Alors, il semble que nous ayons des difficultés pour joindre Eric Svan. Je n'ai pas d'autre téléphone que celui-là. Nous allons faire... on va bien voir, on va commencer à parler du CPAC. Alors, le CPAC, il paraît que là... Alors, tout le monde n'y a pas parlé cette année. D'abord, ça se passait au Texas et non pas dans le Maryland. Et à cause des événements en Iran, Trump n'a pas voulu prendre une heure ou deux pour y aller. Mais il y a quand même eu des speakers, des intervenants remarquables. Il y a eu Liz Truss, qui fait une véritable carrière de conférencière depuis que le marécage anglais conservateur l'a expulsé. Il y a eu Rick Grenell, qui a été un fantastique ambassadeur des États-Unis en Allemagne. Mais celui qui a raflé la vedette, c'est le fils du chat d'Iran, c'est-à-dire Reza Pahlavi. Reza Pahlavi a fait un discours, il paraît-il qu'il a eu une ovation debout, pour ne pas parler franglais. Comme le général de Plateau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, il a rappelé ce dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est que l'Iran est une menace non seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier, étant donné qu'ils sont la menace de l'islam radical chiite. J'ai appris entre-temps que l'islam radical chiite, en fait, mais moi j'en suis fatiguée d'entendre parler des 2500 ans de civilisation perse, attention, hein, c'est pas l'Amérique avec ses 250 ans qui va pouvoir prévaloir. C'est tellement absurde, ça n'a rien à voir. Ça fait 47 ans que ce pays, si grand fut-il autrefois, que ce pays quand même est sous le joug d'une... Et il y a un auditeur qui nous... Eric, vous allez pouvoir nous poser des questions. Il y a un auditeur qui nous pose une question, je suis désolée, mais inepte, en disant, mais de quel droit est-ce qu'on interdit l'arme nucléaire à l'Iran? Je ne peux pas comprendre qu'on ne comprenne pas ça. Ah, on nous fait signe que Eric Svan est en ligne. Allô?
C'est exact.
Ah, bonjour Eric. Ou bonjour, bonne nuit pour vous, au milieu de la nuit. Alors on va faire vite, puisqu'on a perdu quelques minutes. Deux choses pour vous. Vos impressions brèves du CPAC, j'étais en train de dire que Reza Pahlavi avait eu beaucoup de succès, et puis que Trump n'avait pas pu y parler cette fois. Et puis la deuxième question pour vous, c'est le Greenland. Où est-ce qu'en est le Groenland, la question du Groenland, avec tout cela? Parce que Trump, s'il réussit en Iran, aura à mon avis plus de poids pour imposer la nécessité de faire quelque chose pour défendre le Groenland qui est entouré sans cesse par les Chinois et les Russes. À vous, Eric, Eric Zahn pour eh ben jusqu'à 53.
Très bien.
Allez, 7-8 minutes, pas plus.
Alors, c'était un grand succès en ce qui me concerne. Il y avait beaucoup de leaders européens qui étaient là. Le président de la Pologne, les fils de l'ancien président Jair Bolsonaro de Brésil. Beaucoup de gens étaient là. Truss, la première ministre qui a été virée après un mois.
Oui, je viens d'en parler.
Était là aussi. Ah ok, très bien. Et moi j'ai vu Robert F. Kennedy est venu quand même et certains leaders de Washington, les ministres de Trump. Et moi j'étais très content de ce que j'ai vu, c'était bien. Et on était très bien traités. Et c'était la grande surprise, c'était évidemment le chat d'Iran ou son fils. Enfin, on va voir ce qui va venir. Quant à au Groenland, il faut bien se dire que tout le monde dit que c'était. Je vous rappelle que je suis danois, que j'ai du sang danois qui coule dans les veines, que j'ai le cousin de mon grand-père était le gouverneur du Groenland lorsque les navires américains sont venus en 1941, ils sont venus même avant Pearl Harbor, donc avant que les États-Unis soient en grève. Et donc ça me concerne beaucoup. Les Danois, on dit tout le temps, tous les Européens, tous les adversaires de Trump, qu'ils soient américains ou étrangers, disent toujours, c'est une ridicule de vouloir le Groenland. Et c'est un mensonge de la part des Danois parce que quand il a dit ça la première fois, c'était en 2019. En 2019, il a dit « je vais acheter le Groenland pendant son premier mandat ou je vais le prendre ». Et les Danois ont dit « il est complètement fou ». Et en fait, ce qui s'est passé 2 ans avant, c'est que les Groenlandais, le gouvernement du Groenland, ils ont voulu construire un nouveau aéroport. Faire une expansion d'un autre aéroport. Et pour cela, qui est-ce qu'ils ont contacté? Les Chinois. Voilà. Ils ont contacté les Chinois. Évidemment, le premier ministre danois a mis son veto tout de suite. C'est hélas le Rasmussen qui vient de faire des grands gains dans le vote au Danemark, où les socialistes ont fait leur pire démonstration depuis 120 ans. Ils ont fait leur pire chiffre depuis 120 ans. Parce que les Danois ont dit, on ne veut pas, je cite, hein, on ne veut pas que nos enfants grandissent dans un Danemark musulman. Pour retourner au Groenland, donc les Groenlandais, quand il a mis le veto, un parti a été tellement offensé par cela qu'ils ont fait tomber le gouvernement groenlandais. C'est-à-dire que les Groenlandais préféraient avoir des communistes chinois, comme partenaires, plutôt que les élus du Danemark, les élus démocratiques du Danemark, ou les élus démocratiques des États-Unis. C'est complètement fou. Et donc Donald Trump savait bien que s'il ne se manifeste pas maintenant, ça pourrait recommencer dans un an, dans 5 ans, dans 15 ans. Et donc c'est pour cela qu'il s'est manifesté.
J'ai une autre question à vous poser. Question à vous poser, Eric, sur le Groenland, ça va pour le moment, mais une autre question sur le CPAC. Il me semble que le CPAC de cette année contrairement à beaucoup d'années passées, était plus conservateur que libertarien. D'ailleurs, on l'a vu avec le vote pour les présidentiables, CJD est arrivé en tête, néanmoins Marco Rubio a quand même fait une poussée extraordinaire. Et donc, et il n'y a pas eu, d'après ce que vous m'avez dit au téléphone plus tôt, il n'y a pas eu de manifestations des grincheux, comme je les appelle, c'est-à-dire les faux conservateurs représentés par Tucker Carlson et quelques autres.
Oui, oui.
Et donc, vous n'avez pas vu ce genre de conservateurs au CPAC cette année?
Non, il y a beaucoup moins de gens cette année. Et pour la première fois,
parce que c'était au Texas, c'était plus loin, et que Trump n'y allait pas.
L'organisation, oui, c'est ça.
Oui.
Et l'année prochaine, ce sera Orlando. Parce que il y a tellement de gauchistes près de, au Maryland et près de Washington qu'il y avait toujours des ça se passait jamais très bien entre l'hôtel Gaylord à Washington et entre CPAC.
Très bien. C'est dommage, c'était pratique pour y aller. Alors, ils n'ont pas parlé au CPAC, et je voulais vous quitter là-dessus, Eric, ils n'ont pas parlé de Epstein, du fait que le marécage n'a pas encore été complètement curé, loin de là. Ils n'ont pas parlé de ces sujets, parce qu'en fait, ces grincheux dont je vous parlais, qui n'étaient pas au CPAC, donc c'est une bonne chose, ils se focalisent sur quelques questions clés. Alors donc, vous n'avez pas d'informations là-dessus. Bon,
je crois que les gens sont fatigués de cette histoire.
Moi aussi, complètement.
Trump,
oui.
D'ailleurs.
Ouais. Eric, merci beaucoup.
Pour terminer sur le Groenland, je vais juste terminer sur le Groenland. Donc, quand les Européens prétendent que c'est une folie de vouloir avoir de vouloir cette île, la plus grande île du monde, ils vous mentent sur les raisons. Ils vous disent il n'y a absolument rien et il n'y a rien à faire et ça ne sert à rien. Et c'était un mensonge depuis le début, voilà.
Vous avez tout à fait raison.
Cette histoire des aéroports, ça aurait été la plus grande, affaire commerciale jamais de l'histoire du Groenland. Ça s'est passé 2 ans avant. Donald Trump était conscient, et c'est pour ça qu'il voulait éviter que cela puisse se repasser, surtout quand il ne sera plus président, surtout quand le Premier ministre danois ne sera pas du même parti, et il ne voulait pas que ça se répète à l'avenir.
Très bien, Eric, nous devons vous quitter maintenant parce que nous avons dépassé le temps et il y a un bobino de la radio. À bientôt, okay. Eric. Au revoir.
À bientôt, Eric.
J'espère que vous aurez une bonne musique, là.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal du Nouveau Monde, dirigé par Evelyne Josselin, qui reçoit aujourd'hui en présentiel dans le studio Monsieur Paul Rine et par téléphone Monsieur Marc Amblard, Monsieur Eric Swan et le docteur Daniel Clément. Le thème de cette émission, l'Amérique à 7 mois des élections de mi-mandat. Plusieurs messages sont arrivés.
Alors, Eric, je vais vous demander de les lire rapidement. Il y en a qui sont beaucoup trop longs. Vous lisez que ce que j'ai souligné. Nous y répondrons après le docteur Clément.
Alors,
il vaut mieux les lire maintenant.
Un auditeur nous fait remarquer que les États-Unis d'Amérique ne constituent qu'un pays du continent américain. Ce qui est juste. Un autre auditeur, Jean-Marc... bonjour, au nom de quel principe de droit l'Iran n'aurait-il pas droit à l'armement nucléaire?
Oh là là,
c'est une question directe. Un message, un auditeur vous dit ceci, Evelyne, oui. Je vous transmets les meilleures salutations de Vladimir Vladimirovitch.
Attendez, je vais répondre à ça tout de suite. Eric Svan nous disait, nous parlait de la situation au Groenland. Et bien, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens comme ce monsieur qui m'envoie ce petit message rigolo, mais méchant en même temps. Il y a beaucoup de gens qui parlent de notre soi-disant vassalisation par les États-Unis, oh là là, mais qui seraient absolument ravis que le Groenland, et même nous, les Européens, nous soyons vassalisés par Poutine. Ça, ils trouveraient ça formidable. Et pourquoi pas par l'ami chinois Xi. Voilà, on en est là. On ne peut pas se comprendre. Je suis désolée, on ne peut pas se comprendre. Alors, la teneur des questions, là, continuez vite, parce qu'on appelle le docteur Clément après.
Il n'y en a pas d'autres, là.
Oui, il n'y en a pas d'autres, très très bien. On y répondra tout à l'heure, d'accord? Alors, on va appeler le docteur Clément. Est-ce que le docteur Clément est là?
Oui, allô? Bonjour.
Ah, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, bonjour. Vous aviez passionné nos auditeurs la dernière fois en nous parlant du prix fantastique, j'aurais envie de dire fantasmagorique, de certains médicaments aux États-Unis. Et on dirait que Trump vous a entendu et a exaucé tous les vœux, puisqu'il a fait signer début janvier, je crois. Il a réussi quelque chose de fantastique. Il a réuni les grands laboratoires américains, dont Sanofi, un nom qu'on connaît en Europe, et il espère faire la même chose avec les professionnels les assurances de santé. Il a réussi à faire baisser le prix des médicaments, c'est-à-dire à égaliser un peu hausser le prix des médicaments en Europe pour un peu baisser ceux des médicaments américains, trouvés par les chercheurs américains. Alors, docteur Clément, je vais vous poser quelques questions et je vous laisserai répondre en vrac et selon ce que vous voudrez. J'aimerais donc que vous nous parliez de ça, de cette mesure. Est-ce que ce prix des médicaments, un peu baissé, va également se traduire là, maintenant, quelques semaines plus tard, par un meilleur accès des Américains aux médicaments? Ça, c'est une question. L'autre question, ça concerne l'islamisation des États-Unis et plus particulièrement, donc, de l'État de New York où vous vous trouvez, puisque vous êtes près de Albany. Et donc, on a cette femme, le gouverneur, qui découvre qu'elle n'a plus de sous. Elle est arrivée à court de l'argent des autres. Et donc, elle demande aux millionnaires de rentrer dardard pour payer davantage d'impôts. Et puis, il y a Mme Dani qui a été élue par, on se demande comment, et dont la naturalisation pose certains problèmes. Il aurait menti dans son processus de naturalisation. Il aurait menti. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Et j'en profite pour dire qu'il faudrait absolument que le Congrès se penche sur le processus de dénaturalisation, qui est beaucoup trop compliqué et qui devrait être simplifié. Et enfin, dernière chose, à votre goût, selon ce qui se passe dans l'État. Voilà, docteur Clément, vous avez 7-8 minutes. C'est à vous.
Bon, parfait. Bien sûr, le meilleur accès aux médicaments et aux soins de santé ne se fera pas du jour au lendemain. Mais c'est un bon début qui s'est passé et que M. Trump a compris qu'il fallait niveler ou égaliser les prix des médicaments aux États-Unis. Et ça se fait tous les jours. Là, on reçoit des avis que certaines classes de médicaments maintenant sont plus accessibles. On parle d'une réduction de 30 à 80% du prix. Alors, ce sont des réductions très importantes et c'est grâce aux Big Pharma, là, aux grandes compagnies pharmaceutiques qui ont accepté l'évidence que vraiment les États-Unis payaient beaucoup plus que d'autres pays et le décret pour le prix des médicaments est en cours. Ça va se faire, ça va se poursuivre pendant une année ou deux. Certaines classes de médicaments vont prendre un peu plus de temps que d'autres, mais ça se fait. Quant à... Vous avez parlé aussi de l'islamisation du pays. Ça ne se fait pas. Il y a plusieurs anecdotes qu'on peut voir dans les médias où, dans certains États, on essaie de faire des prières de rue, on essaie de se promener avec la burqa complète et ça ne fonctionne pas. Les gens se révoltent dans la rue.
Les Américains non musulmans se révoltent contre ça?
Oh, bien sûr. sûr.
Ah, mais c'est formidable, parce bien que sûr. En Angleterre, ils ne se révoltent ah bah, pas.
Non. Bah, c'est justement, en Angleterre, ils ont pas le droit de se révolter. Oui. Ici, c'est, voilà. C'est les gens...
Très important.
Réagissent très fortement à ça. Malgré tout ça, M. Mamdani fait les prières de rue dans New York, ce qui s'y est du jamais vu. Mais ça se passe comme ça. Est-ce qu'il a menti dans ses... c'est assez difficile à dire. C'est comme avec l'autre, là, Ilhan Omar, la représentante dans le Minnesota. Les gens essaient de se débarrasser de ces gens-là, mais c'est presque impossible. Rien va se passer avec Mamdani. Il va être là pendant plusieurs années pour son mandat. Ce qui est surprenant, c'est que maintenant, il se rend compte que tous ces beaux projets, des loyers à prix modique, des garderies pour enfants gratuites partout, les bus, les moyens de transport en commun gratuits, c'est chose impossible. Chose impossible parce que Mme Hochul, qui est le gouverneur de l'État, lui dit, ben, écoute, on n'a pas les sous pour ça. Et elle, de son côté, comme vous l'avez dit, prie les millionnaires et les milliardaires de revenir à New York pour payer plus de taxes. Bon. Et de Floride, du Texas, tout ça. Et même elle a dit il faudrait aller à West Palm Beach. West Palm Beach est la ville la plus huppée de Floride où tous les millionnaires demeurent, et aller chercher quelques New-Yorkais pour qu'ils reviennent. Alors, c'est un peu ridicule. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de New York se porte très bien financièrement. Il n'y a pas un gros problème là. Le seul problème, c'est que la croissance des revenus commence à diminuer depuis 2 ou 3 ans. C'est aux environs de 10% de moins à chaque année. Alors, à long terme, ça peut devenir un problème. Mais en ce moment, c'est vraiment pas un problème. Et puis, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit avec ça. La ville de New York se porte bien. Mamdani va complètement utiliser ses fonds. Même il a commencé à utiliser les fonds de réserve, comme on a vu avec la tempête de neige. Non, l'État de New York a de l'argent, mais ses revenus, les prédictions de revenus deviennent de plus en plus faibles. Alors, c'est ça le problème. C'est pour ça que Mme Hochul commence à paniquer un peu en se disant, ben écoutez, il faudrait que les grosses compagnies et les milliardaires reviennent à New York. À part ça, vous avez parlé de tous les accomplissements de Trump. Moi, je pense qu'un des accomplissements les plus importants a été le MAHA, Make oui. America's Healthy Again, rendons l'Amérique plus saine, again, en tout cas. Le sénateur Kennedy a fait des pas de géant dans ce domaine. Premièrement avec le Big Pharma, deuxièmement avec les genres de conception que les Américains avaient de leur santé. On a dit que la pyramide alimentaire, vous savez, où en bas, a été complètement renversée par lui. Elle n'a pas été complètement renversée, c'est que la science, je mets ça en guillemets, la science que les démocrates parlent, était très biaisée. Tout ce que...
Comme à chaque fois que les démocrates avancent un prétexte scientifique, il est faux.
C'est ça. Ils disent, oh, it's the science. C'est la science, c'est la science. mais ça, comme je vous dis, c'est la science avec des points, des guillemets, entre guillemets.
Du scientisme, en fait.
La vraie science a prouvé que tous les matières grasses ne sont pas néfastes. Il y en a certaines qui sont très bonnes pour le cœur, comme les poissons, tout ça. Tous les grains, là, le pain, les céréales, tout ça, ne sont pas tous néfastes. Il faut insister sur une certaine qualité de ce genre d'aliments. Alors, tout ce qu'il a fait, lui, c'est mettre en relief la qualité et la science derrière ces notions de base de la nutrition. Ce qu'il a fait aussi, c'est que avec les big pharma et tout ça, c'est les vaccins. Fini le nouveau-né qui se fait injecter avec 15 différents vaccins dans les deux premiers jours de sa naissance. Non, ce sera fait à temps pendant les premiers 6 mois ou même pendant les premières 2 années de l'enfant pour ne pas charger le système immunitaire de l'enfant. Ça, là, les gens crient, mais mon Dieu, ça va créer des problèmes, ça va tuer des gens. Non, pas du tout. Là encore, leur science, entre guillemets, n'était pas correcte. Il a fait un travail immense. Et un autre département où il y a eu un travail immense, c'est le département de l'éducation. On n'en parle pas.
Oui, beaucoup, oui, on n'en parle pas du tout en France. Oui.
Mais la dame McMahon veut... son rôle, selon Trump, était... éliminer ça, ce département, on n'en a pas besoin. Les États peuvent régir leur éducation par eux-mêmes. Et elle fait un travail énorme, souvent silencieux, même pour les Américains, pour que tous les... toutes les foleries que les démocrates ont amenées dans le domaine de l'éducation,
les inepties.
Le DEI... Les inepties, là, l'égalité, l'iniquité, la différence. Elle a clairement, elle fait le ménage de façon exemplaire et à part en Amérique, on n'en a jamais parlé. Et ça, c'est très important parce que la génération qui ont gradué dans les dernières décennies ont été pourries par
ils sont endoctrinés.
Oui, complètement.
Ils sont endoctrinés, en effet. Et ça, ça va changer très, très vite. Puis, c'est à peu près tout ce que d'accord. j'ai à raconter. J'avais pris quelques notes quand vous avez commencé avec vos questions. Et puis...
J'ai une très courte question pour terminer.
Oui.
Pour le Surgeon General, je ne sais pas ce que c'est en français, Surgeon General. Donc, il est en dessous du ministre de la Santé. Trump a proposé une dame qui s'appelle, je ne sais plus comment, Casey Means. Et elle est exactement dans tout ce que vous avez dit, docteur. Elle veut s'adresser aux causes des maladies chroniques qui sont, dit-elle,
exactement.
La mauvaise alimentation, l'abus de médicaments, le manque d'activité physique.
Oui.
L'exposition aux produits chimiques, le stress chronique et la solitude. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus pour terminer? Et alors, elle ne plairait pas aux démocrates et à quelques rhinos parce que ils la trouvent anti-vaccin, parce qu'elle a pris des positions anti-vaccin pendant le Covid,
mais
comme vous, elle est pour ne pas surcharger les nouveau-nés et faire vacciner avec les bons vaccins et à l'âge qu'il faut. Un mot là-dessus pour terminer, docteur, s'il vous plaît.
Je suis content que vous avez mentionné docteur Mims parce que c'est une dame brillantissime. Elle et son frère sont médecins. Je crois qu'ils ont fait des études exemplaires, Harvard et tout ça. Ce sont des médecins qui vraiment
savent de quoi ils parlent.
Appliquent le serment d'Hippocrate à fond. Cette dame est très intelligente. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est que elle va dans la science, la vraie science, de façon un peu poussée pour le public en général. Et certaines personnes disent, mais mon Dieu, c'est une folle. Vous savez comment le prophète n'est jamais prophète dans son propre pays.
Mm-hmm.
C'est la même chose pour elle. Elle a eu des réactions un peu mixtes ici, mais... il y a 2 ou 3 entrevues qu'on peut voir sur YouTube d'elle et de son frère, qui est aussi médecin et qui s'engage dans la santé publique, qui sont absolument qui vont vous ouvrir les yeux sur des choses très banales, comme vous dites, donner 15 vaccins à un nouveau-né, ben c'est pas croyable.
Oui.
Mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans
Trump,
le pays.
Trump en avait parlé dès 2016, je me rappelle, dès 2015 dans sa campagne,
oui,
et
oui,
dès 2016,
oui, oui.
Il en avait parlé. Docteur, je crois que nous allons être obligés de vous quitter parce qu'il est déjà 13h10. Comme d'habitude, merci pour votre éclairage très précieux, et ce sont des choses dont les Français ne sont absolument pas informés. À bientôt, docteur.
À bientôt, au revoir.
Et merci encore. Alors, nous allons maintenant répondre rapidement. Est-ce qu'on... Bah non, on n'aura pas le temps de passer les Greenwood. J'avais promis, mais on ne va pas avoir le temps. Alors, non, mon poisson d'avril n'est pas que je suis tout à coup pro-Poutine. Certainement pas. Mon poisson d'avril, je vous le dirai tout à l'heure si vous ne l'avez pas trouvé. Alors, on ne peut pas... Jacques Chirac disait « à saute question, point de réponse ». Alors malheureusement, il y a des questions qui nous sont arrivées qui ne méritent pas de réponse. Alors là, franchement, j'ai demandé à Paul Rhin tout à l'heure « au nom de quel principe de droit l'Iran n'aurait pas de droit à l'armement nucléaire ?» Franchement, cher auditeur, pouvez-vous réfléchir, à la nature de ce régime avant de poser une question pareille ?
Des milliers de leur propre peuple.
Oui.
On essaie de libérer les peuples iraniens, en plus de libérer la région Moyen-Orient.
Mais ça, c'est pas la pire raison. Ça serait comme ce que fait la Corée du Nord. La Corée du Nord est une abomination pour son propre peuple. Mais au moins, elle n'a pas d'ambition d'envoyer des bombes nucléaires sur ses voisins.
Il n'a pas besoin d'uranium à 60%
même pas.
Générer l'électricité.
Oui, mais c'est pas la réponse.
C'est pour une bombe.
La réponse à la question, c'est que c'est une idéologie mortifère et que eux, s'ils sautent avec leur propre bombe en même temps que nous, c'est pas grave, ils vont rencontrer le paradis d'Allah. Et on ne peut pas laisser des gens avec une telle idéologie avoir une bombe nucléaire. C'est pas possible. Et pourquoi est-ce que Israël l'a que comme défense, et absolument pas pour s'en servir et attaquer. C'est là tout ce que les Européens ne comprennent pas.
Et Trump est le premier à vraiment prendre action. Pas juste envoyer milliards de dollars comme Obama et Biden. Il prend d'action pour arrêter cette menace.
Tout à fait. Et qui nous concerne tous, que les Européens ne comprennent encore pas. Là, on a un message particulièrement méchant. Vous l'avez lu, Eric. Là, ne tournez plus autour du pot. Parlez-nous carrément d'Israël. Torah, Talmud, Grand Israël et du racisme anti-goy. Anti-goy, ça veut dire du racisme anti personnes qui ne sont pas juives. C'est pareil. À cette question, pas de réponse. Désolée. Je vous transmets. Ça, c'était rigolo. On l'a lu au nom de. Voilà. Et avec quelqu'un qui nous dit que non, Trump n'a pas déwokisé l'Amérique parce que l'Amérique, c'est aussi le Canada et le Mexique. Bon. Formidable. Il essaye de déwokiser non seulement l'Amérique, et je suis désolée, ça c'est les gens qui disent états-uniens au lieu de dire américains. Il essaye de déwokiser en même temps tout l'Occident, et on devrait le suivre au lieu de le critiquer. Voilà, c'est à peu près tout. Il y en a une dernière qui est arrivée, qui est plus pointue que les autres.
Un message de Michel, qui est un auditeur très fidèle de Radio Courtoisie et que nous saluons bien. Bonjour, notre président français souffrirait-il, en plus du complexe du général de Gaulle dans son bras de fer ridicule, avec Donald ? Et selon vous, qui va encore payer les pots cassés ?
On peut répondre oui pour... Encore qu'il n'a rien du général de Gaulle, sauf
Écrit « Petit poisson deviendra grand ».
Alors mon poisson, vous voulez que je vous le dise ce que c'était ? Non, on en va attendre la fin de l'émission.
Oui,
mais personne ne l'a trouvé, il n'y a pas de gagnant. J'aurais dû dire qu'il y avait quand même 1 million d'euros à gagner pour celui qui trouvait le poisson qui s'était glissé dans notre émission.
C'est sous mon dos.
Alors ils vont peut-être se...
Vous êtes richissime.
Alors, on va terminer les 10 dernières minutes avec les questions qui se posent pour l'année 2026 à venir. Moi, j'aimerais, et Paul Rhin va nous dire ce qu'il en pense, moi, j'aimerais que Trump mette en vigueur, ce qui pour l'instant est une rêverie, mais abolir l'impôt sur le revenu, qui a été décidé en 1913. 1913, c'est à peu près le départ de la guerre culturelle. Et ça commence comme ça. Ça commence déjà, puisque c'est du socialisme, c'est du néo-marxisme. Et donc, cet impôt sur le revenu, qui était au départ tout à fait modeste et tout à fait acceptable, il est devenu, parce qu'il est devenu aujourd'hui partout, une honte, et accompagné de plein d'autres impôts. Paul Rhin, si vous avez un mot, j'aimerais que vous nous en parliez sur le baby bonus, c'est-à-dire les comptes Trump, qui, contrairement à ce que les gens croient, ne sont pas une mesure de politique nataliste, mais au contraire, c'est une mesure pour apprendre les gens et les petits dès la naissance et leurs familles à compter avec le marché, ce que le marché peut apporter au lieu de compter uniquement sur l'État. C'est une mesure parfaitement capitalistique. On verra si Paul Rhin a des informations là-dessus. J'aimerais... Ah, l'islamisation des États-Unis, c'est un problème colossal. Et jusque-là, il n'y a guère que le Texas qui a pris des mesures anti... Alors, ce n'est pas contre les musulmans, là encore. C'est contre l'islamisme radical. Attention. Que penser du Board of Peace de Trump? Moi, j'avoue, je ne suis pas... Vous nous direz, Paul Rhin, cet organisme qui, étant donné que l'ONU ne fait pas son travail, le pape qui critique aussi Trump, qui se permet de lancer des enfin, est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça? Il y a beaucoup de questions. Alors, pour 2026, et alors surtout...
2026...
Attendez, la dernière question, la question clé, avec tout ce que nous avons débattu, mais il y a encore... on ne peut pas faire de pronostic pour le 2 novembre. C'est beaucoup trop loin, 7 mois. Tellement de choses peuvent arriver. Mais au jour d'aujourd'hui, comme disent certaines personnes, même si je n'aime pas cette expression, est-ce qu'on peut être optimiste ou pas?
Oui. OK. Je vais essayer de répondre à votre liste. Le baby bonus, c'est une incentive... pour faire les investissements, les économies pour les familles. Trump donne 1000 dollars, je crois.
À chaque nouveau-né.
À chaque nouveau année, oui. Enfant né. Et pour démarrer un portfolio d'investissement qui est tax deductible, sans taxe jusqu'à retirer. Et c'est bien, il est toujours en train de gérer plein de choses à la même temps.
Oui, c'est fantastique.
À mon avis, c'est le meilleur président dans l'histoire des États-Unis.
Je trouve
d'accord,
aussi.
Excusez-moi, je suis un peu partial, mais il fait tout le temps, et le média anti-Trump, il couvre rien. Il juste critique. Il gère les cessez-feux autour du monde, Gaza, Israël, plein des autres pays. La seule chose, c'était l'Ukraine. OK, l'Ukraine, c'est en cours.
Ah oui, là, moi, je...
OK, il faut dire, c'est pas terminé. Mais en même temps, il a fait énormément de choses. Et en même temps, il essaie de motiver des gens à faire des investissements aux États-Unis. Il essaie vraiment d'aider financièrement les familles américaines. Vous avez parlé de le Board of Peace, par exemple, le Board de paix.
L'organisation pour la paix.
Organisation pour la paix, surtout pour reconstruire Gaza. Et la chose très intéressante de ça est que l'OTAN n'est pas dedans. L'Union européenne n'est pas dedans. Qu'est-ce qui se passe avec ça? L'OTAN et l'Union européenne. C'est le pays arabe.
Attendez, faut bien dire une chose, c'est pas Trump qui a évincé l'OTAN de cet organisme, c'est l'OTAN qui s'est pas inscrit. C'est pas la même chose. C'est pas qu'ils ont pas été invités.
Non, oui, bien sûr. Oui,
c'est
bien
qu'il
sûr. Tout
le méprise parce qu'il préfère,
le seul pays
il que... préfère l'ONU. Il pense que c'est l'ONU, l'organisme de paix, l'ONU qui n'a pas été fichu de résoudre un seul conflit armé depuis son existence.
Oui, exactement. Donc, je crois que c'est Hongrie et Pologne, peut-être deux autres pays européens. Mais c'est tout. La plupart, c'est les pays d'Arabes. Mais ça, c'est bien. Les pays d'Arabes devrait faire quelque chose pour assister Gaza et les Palestiniens qui sont là. Ok, crier de paix. Tout ça, c'est génial. En termes de... pour le mi-terme, je reste positive. Mais tout dépend de comment la guerre va finir. Trump, il y a un discours ce soir à 3h du matin.
Oui, oui.
3h du matin.
3h du matin, c'est difficile à regarder.
Un peu difficile, donc c'est très
ça,
tard. C'est à
ça sera retransmis
soir.
Sur Fox News à 7h du matin. Et là,
oui, à 3h du matin, parce que c'est à 9h du soir, oui, j'ai vu aujourd'hui.
Oui.
9h du soir à Washington, qu'il va faire un discours de l'état de l'avancement de la guerre. Les choses vont vraiment changer dans les semaines qui arrivent, car, surtout après Pâques. Si il y avait des marines, combien 3000 marines qui sont en train d'arriver.
3500.
Combien
3500.
3500 marines, les 82e Airborne qui arrivent maintenant dans la région. On verra, les choses vont changer. Si, ils ne supportent pas les Iraniens qui disent le blablabla, qui disent qu'ils vont négocier, mais ils ne font rien.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'OTAN, l'attitude des pays de l'OTAN?
Well, oui, ils essayent de faire les choses défensives, oui. Ils ne vont pas lancer dans la guerre, sauf si c'est défensif, comme la France. D'accord, c'est mieux que rien. Mais... qu'est-ce que vous voulez dire
autant Trump que Marco Rubio et que J.D. Vance et que Pete Hegseth, le ministre de la guerre, ouais. Ils viennent de redire ce qu'ils disent depuis qu'ils sont arrivés tous, et redire que véritablement les alliés de l'OTAN ne sont pas fiables. Et ça, on le constate une fois de plus. On ne leur a jamais demandé, pas plus qu'on avait demandé en 2003 aux Américains, aux Français, d'aller se faire tuer en Irak pour les Américains. C'était pas ça du tout. Les Américains avaient quand même subi à l'époque le 11 septembre. Eh bien, il y avait personne pour les aider, en tout cas en France, il n'y avait personne, pour au moins apporter du matériel ou donner un petit coup de main. On ne leur demandait pas d'aller se faire tuer. Même chose ici, le détroit d'Hormuz, c'est surtout pour leur bien. On ne leur demande pas d'aller se faire tuer, on leur demande simplement un coup de main. Peut-être avoir quelques navires qui aident un petit peu. Non, même pas. Et les bases européennes...
Ils ont dit non.
Ils ont osé dire non, vous
c'est
ne passerez pas.
C'est pas notre guerre, et c'est pas notre problème.
Pas que le ministre socialiste espagnol.
Trump, Rubio, Hegseth, ils sont tous très frustrés.
Attendez, Paul Rin, je voudrais juste terminer là-dessus. Et si, moi qui adore l'OTAN, qui nous a défendus depuis 70 ans, moi qui adore l'OTAN, j'en viens à penser exactement comme Trump, Hegseth et Rubio, nous ne le méritons pas. Nous sommes des alliés minables, nous sommes des alliés félons, et nous ne sommes jamais là, même pour un petit service. Pas pour aller se faire tuer, pour un petit service. Nous ne sommes pas fichus d'aider Zelensky sur notre propre turf qui est l'Ukraine. C'est tout près de chez nous, l'Ukraine. S'il n'y a plus l'OTAN avec les Américains dedans, Poutine peut arriver à l'Atlantique demain matin. Voilà, je laisse Paul Rin terminer sur tout ça.
Vous avez bien exprimé. Et c'est exactement la frustration que Trump
c'est toujours
et Rubio
un sens unique.
Et Rubio vient de dire que l'OTAN, c'est une sens unique.
Toujours un sens unique.
Sens unique, ouais.
Et ils sont plus gentils que moi. Ils ne disent pas les choses. C'est qu'en fait, ce sont des lâches.
Ouais.
Ce sont des lâches, moi
c'est
je
dommage,
le dis. Et ils ne veulent pas, et je crois que votre ami Timmermans l'a dit aussi dans une de ses chroniques, ce sont des lâches, et ils veulent en fait tous les avantages. Ils veulent être aidés financièrement, militairement, et pouvoir critiquer en plus l'aide américaine en reconnaissant qu'ils ne sont pas aidés. C'est inouï.
De dire on n'est pas d'accord, on ne peut pas faire ça, mais la façon que Keir Starmer a parlé...
Une honte.
Quelle honte.
Une honte.
Non, c'est pas notre problème. On refuse et il fait ça pour les raisons politiques. Pas notre problème. Au moins, la France a envoyé une porte-avions, oui.
Oui, mais pourquoi faire?
mais pas énormément
pour faire de la
choses.
Figuration?
Pas énormément. Ouais. Je sais que... Ouais. You know, on apprécie les Français, mais on voudrait avoir même plus d'assistance. Mais On verra dans les semaines qui arrivent, avec mes correspondances, avec les gens comme Ken Timmerman. Ils disent que, comme le média français dit, il y a 6 semaines, c'est bientôt 6 semaines. On a fait 5 semaines. C'est toujours une cloque, toujours un countdown pour mieux, plus critiquer l'administration Trump. Ken Timmerman.
C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils sont réduits à critiquer puisqu'ils ne sont pas fichus d'apporter quelque chose de positif.
Probablement, ça va durer 8 semaines minimum. En fait, mais on espère que ça va réussir, on va finir ça dans les semaines qui viennent, et si c'est le cas et c'est positif, Trump sera un président sans précédent et on va garder le Congrès pendant le mi-temps.
Vous pensez vraiment? Ouais. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, parce qu'étant donné que Marc Semblard nous a bien expliqué la situation, mais je ne vois pas trop le dénouement. Et si le filibuster n'est pas aboli...
La chose qui arrive, c'est la Chambre. Par le Sénat. Et en fait, parce que les sénateurs républicains votent avec les démocrates, donc il sera réélu. Mais c'est la Chambre où il y a des vrais conservateurs, MAGA. Je crois qu'on va garder la Chambre.
C'est votre conclusion, parce qu'il nous reste encore 2 minutes. Alors moi, j'en profite pour dire que mon poisson, que je trouvais pas si mauvais que ça, mon poisson, c'était que, non, je suis désolée, le Conseil permanent de la francophonie s'est pas manifesté du tout. Là encore, ceux-là, ils sont tout à fait d'accord pour taper sur les Américains et le monde anglo-saxon, comme ils disent. Ils se sont pas insurgés contre ce général de plateau qui ne sait rien de ce qui se passe en Iran, mais qui, par contre, se permet d'employer un mot comme bitché.
Bitché.
Verbe du premier groupe inventé par ce monsieur. Voilà, c'était mon poisson d'avril. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé plus malin, mais c'était quand même un poisson d'avril.
D'accord.
Alors, est-ce qu'il nous reste du temps? 1 minute, il nous reste 1 minute. Paul Rhin, à quoi vous voulez l'occuper cette dernière minute?
Une chose, je vais juste ajouter à la discussion de ce CPAC.
Oui.
Que Eric n'a pas dit, et que même s'il y avait moins des Américains en Texas cette année, la chose très positive pour moi est que le CPAC a inspiré les Européens. Et il y avait un CPAC en Hongrie, juste le mois dernier, et il y avait beaucoup de gens, les conservateurs, les gens de droite en Europe. Était là, et Liz Truss parlait d'avoir CPAC en Angleterre bientôt.
Très bien. Prochain. Alors, chers auditeurs, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Je vous souhaite de très joyeuses Pâques et je vous dis à dans 4 semaines. Et merci à tout le monde et à mes intervenants.
Et à Jean-Louis pour la prise des messages.
Bien sûr.
Et à Benoît pour la réalisation.
Et nous n'avons pas passé de musique, hélas. Une autre fois.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Nouveau Monde dirigé par Evelyne Josselin, assisté d'Éric, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 1er avril 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.